Littérature sans frontières.
Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.
Pendant ce temps à Tel Aviv, on escortait en hâte le lieutenant Oriana Talmor à la réunion exceptionnelle. C'était la première fois qu'on lui demandait de représenter son unité à Camp Rabin, le quartier général de Tsahal à Kiria. Elle considérait avec surprise l'énorme bâtiment des forces de défense israéliennes, tandis que l'athlétique membre de la police militaire qu'on lui avait assigné pour escorte ouvrait la marche d'un pas martial. Le lieutenant Talmor le suivait à travers un labyrinthe de casernes brutalistes en ciment et de tours en verre futuristes, le long d'allées portant des noms aussi incongrus que « Chemin des Iris » ou « Sentier des Pâturages ». Il leur fallut 20 minutes et plusieurs vérifications d'identité pour atteindre l'étage abritant les bureaux exécutifs du chef du renseignement de Tsahal. Oriana trouva un siège près d'une fenêtre donnant sur Tel Aviv. Devant elle, une masse d'immeubles peu élevés où pointaient ici et là des taches de verre s'étalait en direction de la Méditerranée. La mer était à peine visible, incolore sous le soleil écrasant, éclipsée par les tours résidentielles et les hôtels. De l'autre côté de la rue, les gens faisaient la queue devant des restaurants chics, passaient sur des vélos électriques dernier cri, échangeant des salutations, des nouvelles de la famille, des recettes végétariennes. Plus près des grilles, quelques femmes vêtues de noir appelaient à la fin de l'occupation militaire dans les territoires palestiniens, poliment ignorées par les touristes américains qui s'engouffraient à l'intérieur du centre commercial. Près du parking, des dizaines de chars rôdaient autour des poubelles, attendant que le soldat de corvée vienne y déverser les restes de la cantine. Même de cette hauteur, Oriana percevait l'énergie qui se dégageait de tout cela. Tel Aviv était désormais considérée comme une des villes les plus cool du monde. C'était aussi le seul endroit en Israël qu'elle n'avait jamais vraiment aimé.
Littérature sans frontières. Un pays, un auteur.
Bonjour Dov Alfon.
Bonjour.
Et merci de nous avoir lu cet extrait de votre roman intitulé Unité 8200, publié aux éditions Liana Levy, du nom de la section de renseignement militaire chargée des télécommunications, un service basé à Tel Aviv, où, comme on vient de l'entendre, se déroule en partie votre livre. Quel est votre lien avec Israël ?
J'étais un enfant tout à fait français, en ce sens que déjà, j'avais même ma place au lycée Henri IV et j'étais le plus parisien que l'on puisse imaginer quand un grave incident antisémite est survenu sur le lieu de travail de mon père. C'était un truc tout à fait personnel. Revenant de vacances, il avait trouvé son bureau bariolé de croix gammées et de slogans antisémites. Cela a fait à mes parents un choc terrible et ils ont décidé, en moins de 3 semaines, de quitter la France. Et je me suis donc retrouvé, le jour de mon anniversaire, de mon 11e anniversaire, je me suis retrouvé sur un bateau de la compagnie Tzim, qui s'appelait le bateau Théodore Herzl, pour un pays que je ne connaissais pas, mais que je savais qu'on appelait la Terre Promise.
Et quelle a été alors votre première impression en arrivant ?
Vous savez, Israël est vraiment un pays très varié. Nous avons atterri à Ashdod, qui est un port avec beaucoup d'immigrants sur la Méditerranée. C'est une ville, comme tous les ports de la Méditerranée, un peu violente, certainement très vivante. Et ça ne ressemblait pas du tout à la rue Broca que je venais de quitter. Donc, ma première impression fut d'atterrir sur la Lune. Je dirais presque dans un endroit où je n'avais aucun point commun. Ce qui m'a le plus gêné, bien sûr, était que je ne possédais pas la langue, que je ne savais pas la lire, et que par contre, les bibliothèques que je trouvais autour de moi n'avaient pas de livres français du tout. Donc j'en étais réduit à lire et relire la dizaine de livres qu'on m'avait permis d'amener avec moi. Et je pense que ça a donné, au moins pendant 2 ans, une étrange impression d'être un observateur, un extraterrestre presque, atterrissant dans un territoire que je devinais passionnant, mais qui m'était aussi, me semblait assez effrayant.
Donc vous êtes arrivé en Israël avec un point de vue un peu distancié, un regard un peu étranger, puisque vous n'y étiez pas né, que vous y êtes arrivé jeune. Et ensuite, alors, que s'est-il passé? Parce que vous êtes devenu officier, n'est-ce pas?
Je suis devenu le plus israélien que l'on peut. Ce qui d'ailleurs ressemble à vraiment des dizaines de mémoires et d'autobiographies d'auteurs qui ont immigré dans leur enfance. Cela n'a rien d'original, mais ce n'est pas très consolant quand on est enfant. Et toujours est-il que j'ai décidé d'épouser la culture de ce pays, puisque je ne voyais pas d'autre choix. Et je suis devenu tout à fait israélien. J'ai fait mon bac, y compris en littérature hébraïque. Et bien sûr, j'ai été mobilisé pour mon service militaire obligatoire. J'ai passé avec des milliers d'autres jeunes des tests pour ce service de renseignement dont j'ignorais l'existence, qui s'appelle Unité 8200. Et j'ai été sélectionné. Donc je me suis retrouvé avec une trentaine de jeunes, tous très talentueux, certains parlant vraiment des langues différentes, certains étant génies d'informatique. Et je me suis trouvé là-dedans, par hasard, de mon point de vue, mais pour eux, ils m'ont trouvé un talent extrême pour le renseignement. Et donc, je suis devenu officier très rapidement et j'ai suivi là-bas toute une carrière.
Donc, on découvre avec vous, Dov Alphon, que cette unité 8200, elle existe réellement, même si c'est une des unités les plus secrètes d'Israël, une organisation, écrivez-vous, semi-clandestine. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, qu'elle agit dans l'ombre?
D'abord, pour vous donner une idée, le jour où on nous a officiellement expliqué que nous allons donc servir dans l'unité 8200, qui est une unité secrète des renseignements militaires de Tsahal, on nous a permis d'appeler nos parents seulement pour leur dire que tout allait bien et que nous revenons à la maison dans 3 semaines. Il nous était interdit de dire autre chose que de dire on fait un stage de renseignement. Mais l'un de mes camarades de classe, donc du futur stage, comme il savait très bien ce que c'était et que ses parents étaient déjà officiers supérieurs, a dit à son père au téléphone « On m'a sélectionné pour unité 8200 ». Et il n'avait pas terminé la phrase que 2 policiers militaires l'ont accosté de derrière, puisque les téléphones bien sûr étaient espionnés, et il s'est retrouvé au cachot militaire pendant 3 mois. Bien sûr, il n'a jamais regagné l'unité. Donc c'est cette culture du secret qui était très présente dès le premier jour. Cela a changé brutalement des années et des années après, quand on ne pouvait plus cacher l'envergure et les réussites de l'unité 8200. Pour vous donner une idée, de sources officielles, 90% des renseignements qui mènent à des opérations militaires israéliennes viennent de l'unité 8200. Seulement 3% viennent d'une unité beaucoup plus connue ici, qui s'appelle le Mossad, et les autres 7% viennent des services de renseignement intérieur, comme le Shin Bet, le Shabak, etc. Donc, on perçoit bien l'envergure et l'ambition de cette unité, qui ressemble beaucoup à la NSA américaine, qui pourrait ressembler un peu à la DSGI française, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. D'abord, ces opérateurs, et c'est l'un des points de mon roman, mais c'est tout de même très surprenant, la moyenne d'âge à l'unité 8200 est de 20 ans. Mon héroïne, Oriana Talmor, en a 22 et donc elle se sent l'aînée de tout ça. C'est non seulement bizarre, mais bien sûr ça a une influence extrême sur tout, sur un certain aspect juvénile aussi de leurs opérations, puisque à la NSA, comme au Mossad, la moyenne d'âge serait plutôt vers les 42 ans que ces âges-là. Donc on a affaire à des jeunes très talentueux, mais aussi très jeunes.
Alors encore 2-3 questions, si vous permettez, Dov Alphon, parce que c'est vrai que cette unité 8200, c'est le cœur de votre roman. Donc nous, lecteurs, auditeurs, auditrices, nous aimerions un peu comprendre encore 2-3 détails. Par exemple, ce nom de 8200, ça vient d'où ?
Eh bien, d'abord, d'après la blague consacrée, c'est parce qu'il y a 8 Ashkénazes et 200 séfarades. mais en réalité, c'est un nom de code comme un autre. C'était le premier code postal militaire de la base. Bien sûr, on ne pouvait pas alors dire, comme on aurait sans doute dit aujourd'hui, c'est une unité de renseignement qui espionne les télécommunications. Tous vos emails, tous vos messages textes, toutes vos conversations téléphoniques sont susceptibles d'être écoutées et enregistrées par ces opérateurs très jeunes de l'unité 8200 qui se trouvent en réalité à 4000 kilomètres de vous. Donc c'est très différent de l'espionnage humain comme la CIA, l'ancienne DST et le Mossad, où au contraire on a une filature, c'est une filature humaine, c'est-à-dire quelqu'un va vous suivre dans la rue.
Et pour être tout à fait clair, de Valfond, vous avez donc été espion.
Ben oui, je ne peux pas le nier. Je préférerais alors le terme officier de renseignement, qui est plus neutre, mais inutile de jouer avec les euphémismes, oui. Absolument.
Et est-ce qu'aujourd'hui vous êtes à la retraite ou vous en êtes parti? En tout cas, j'imagine que si vous avez été en mesure d'écrire ce roman, c'est sans doute parce que vous n'y êtes plus. Sinon, vous n'auriez pas eu l'autorisation de votre hiérarchie.
Oui, absolument. Ceci dit, même quand on quitte l'unité 8200, pendant des années, on va faire une période de réserve. Et donc, je l'ai fait alors que je n'étais plus espion. Et lors de l'une de ces périodes de réserve, après 5 ans, on vous passe au polygraphe, donc au détecteur de mensonges. On va vous demander est-ce que vous vous droguez, est-ce que vous avez des amis iraniens, etc. Et l'une de leurs questions était, avez-vous l'intention d'écrire un livre sur votre expérience à l'unité 8200? Alors, je n'avais pas cette intention, et donc j'ai répondu non, et le détecteur de mensonges a trouvé que je disais la vérité. Mais une fois sorti de ce bunker, je me suis dit, tiens, ça serait pas idiot, ça. Et donc, je peux dire que ce roman est né un peu par leur faute. C'est eux qui m'ont donné cette idée.
Alors justement, entrons dans la fiction avec vous, Dove Alphon, et ce roman qui commence sur les chapeaux de roue à Paris, où après l'atterrissage d'un avion en provenance de Tel Aviv, un passager israélien disparaît étrangement dans l'aéroport après avoir été abordé par une femme en rouge. Et là, immédiatement, tous les signaux se mettent en alerte, à peine quelques minutes après ce qui n'est pas officiellement considéré comme un enlèvement. Et je trouvais que les nouvelles allaient très très vite entre la France et Israël, qui tout de suite est sur le pont. Est-ce que ces réactions sont toujours aussi fulgurantes ou ce sont pour des raisons romanesques que vous avez accéléré le processus, à moins que, en effet, chaque citoyen israélien soit l'objet à l'étranger d'une attention toute particulière, pour ne pas dire paranoïaque?
Alors, c'est oui et non. D'abord, oui, il y a forcément un aspect paranoïaque, je dirais, à la politique israélienne de sécurité, forcément. Mais en même temps, comme les lecteurs vont le découvrir plus tard, il y avait une raison pour être en alerte, et le colonel Abadi, donc l'un des héros de ce roman, n'est pas sur ce vol par hasard, donc ce n'est pas vraiment un hasard. Comme les leçons de mes aînés, hein, des grands maîtres du roman d'espionnage et du roman policier en règle générale, il n'y a pas vraiment de coïncidence. Et donc tout va se résoudre par une explication, je l'espère étonner un peu le lecteur, puisque ce sont les règles du roman policier, mais qui en tout cas sont totalement cohérents avec cette impression de paranoïa qu'on peut avoir quand on regarde la politique israélienne.
Et pour mener cette enquête, donc un binôme à Tel Aviv.
Exactement.
D'un côté, d'abord Oriana Talmor, dont on a entendu le nom dans l'extrait que vous nous avez lu, qui est nommée un peu sur l'obstacle à la tête de l'unité 8200 parce que il y a un changement de direction. Vous nous l'avez dit, elle a 22 ans, ce qui est à la fois jeune mais néanmoins cohérent avec la moyenne d'âge de cette unité. Cela dit, je me demandais, Dov Alphon, si c'était courant d'avoir une femme si jeune haut gradée à ce poste dans l'armée israélienne.
Oui, tout à fait. D'abord, elle est bien sûr nommée chef de la section spéciale de l'unité 8200. L'unité 8200 est une unité énorme qui a un lieutenant général, donc ce ne serait pas Oriana, et peut-être ce ne serait pas une femme. Mais dans, je dirais, le moyen commandement, donc chef de section, chef de département, il y a énormément de femmes. Tzahal a été la première armée dans le monde occidental, je pense, où la mobilisation était obligatoire pour les femmes. Et donc, dès 1948, et en fait avant, on peut voir des femmes à tous les postes. Cela s'est un peu stoppé ces derniers temps, vu l'influence des religieux et de l'extrême droite religieuse en Israël. Et donc, c'est devenu un combat féministe. C'est l'un des des nombreux paradoxes de ce pays, où d'un côté, les organisations féministes ont tendance à être pro-paix et pro-gauche, et de l'autre, les femmes sont bien décidées à ne pas lâcher l'égalité des droits et des devoirs dans l'armée israélienne. Et donc, on en est à avoir des manifestations à la fois contre les bombardements de Gaza, mais pour l'inclusion des femmes dans les tanks ou dans des opérations commando. Et c'est ce qui rend ce pays, vu de l'étranger, à la fois un peu effrayant, mais en même temps très passionnant.
Et à Paris, sur place, donc, un autre officier, le colonel Zev Abadi, un juif tunisien qui a grandi à Paris, qui est là, alors, un peu par hasard, sauf qu'il n'y a jamais de hasard, vous nous l'avez dit, Dov Alfon. En tout cas, il n'est pas en mission officielle, puisque on l'apprend au cours du récit. Il a témoigné en faveur d'objecteurs de conscience dans son unité. Il a été mis à l'index, voire considéré comme un traître. Il y a donc des objecteurs de conscience dans l'armée israélienne?
D'abord, oui, ça, bien sûr. Il y en a beaucoup, même. Je dirais presque qu'il y a différents degrés. Il y a ceux qui refusent de servir dans l'armée. Ils sont assez rares simplement parce que l'armée va le savoir dès leurs années de lycée et donc peut-être ne va pas les appeler. Mais il y a énormément d'objecteurs de conscience qui refusent de servir dans les territoires palestiniens, par exemple. Il y en a beaucoup. Ce qui a été un peu surprenant avec l'unité 8200, c'est que il y a 3 ans, à la surprise générale, un groupe d'officiers de réserve, mais aussi de services actifs, a signé une lettre ouverte refusant de continuer de servir dans l'unité si l'unité continuait d'espionner des citoyens palestiniens. Les activités de l'unité 8200 ne sont pas contre les Palestiniens, mais contre d'autres buts. Mais il y a tout de même apparemment un département palestinien dans l'unité 8200, et ce sont ces officiers-là qui ont déclaré qu'ils devaient fermer, ce qui a fait un grand scandale, qui est arrivé, qui a donc étonné les lecteurs des journaux du monde entier. C'est Libération, Le Monde ou le New York Times et le Guardian, tous ont publié cette lettre ouverte qui était très surprenante vue de l'étranger, mais qui ne l'est pas tellement quand on vit là-bas.
Et qu'en pensez-vous, vous, Dov Alfon? Ça relève de la traîtrise, selon vous?
Non, je pense qu'on ne peut pas être traître à son pays ou à sa religion. On ne peut être traître qu'à sa conscience. Et donc, si j'ignore les faits qui les ont poussés à écrire cette lettre, donc je ne peux pas dire que je suis d'accord. Mais par contre, je suis d'accord pour leur choix. Et c'est tout à fait dans, je dirais presque, leur obligation. S'ils estiment qu'ils seraient traîtres en leur conscience en continuant, je peux tout à fait comprendre qu'ils aient pris cette décision. C'est une décision lourde de conséquences pour leur vie privée, surtout dans l'état actuel de l'État où toute personne avec une conscience en fait peut être soupçonnée de traîtrise, de trahison. Effectivement, ils ont pris cette décision qui est donc tout à leur honneur. Pour moi, il y a énormément de choix de ce genre en Israël, qui est un pays confronté avec donc ces choix quotidiens qui ont trait quelquefois à l'occupation des territoires palestiniens et de la population palestinienne, mais pas seulement. Ce mois-ci, tout le mois de juillet, nous avons vu des manifestations de juifs éthiopiens à Tel Aviv, de très grande envergure, qui se disent victimes d'un racisme, non pour la couleur de leur peau, puisqu'ils sont juifs. Ce n'est même pas dire « je suis arabe », donc non, je suis juif, mais je suis noir, et donc je ne suis pas traité de la même manière. Et on voit énormément de questions autour de cela, alors que cela n'a rien à voir avec le conflit, apparemment. Mais Israël est un pays qui vit dans un état de contradiction extrême au jour le jour. Et donc, ce sont là des luttes qui m'intéressent et j'essaie de les décrire.
Dans le roman.
Absolument.
Oh.
Littérature sans frontières. Un pays, un auteur.
Et nous sommes en Israël aujourd'hui avec l'écrivain Dov Alfon, auteur du roman intitulé Unité 8-200 aux éditions Liana Levy, en Israël et à Paris, puisque le récit se déroule en parallèle dans les deux villes, on l'a dit, autour d'une intrigue qui relève à la fois de l'espionnage et du roman policier, puisque les deux agents du renseignement israélien, qui ne se connaissent pas encore, mais qui communiquent régulièrement, sont à la recherche de l'un de leurs hommes qui a disparu dans la capitale française, un militaire qui est aussi pourchassé par la mafia chinoise. Les Russes ne sont pas très loin. Et au milieu aussi, la police française, dans la personne du commissaire Léger, qui est peut-être un héritier du commissaire Maigret, auquel vous faites allusion. En tout cas, l'acteur qui l'a interprété, Jean Gabin, qui est cité. Et ce, sur un rythme effréné, puisque l'on compte 12 morts en 24 heures chrono ou presque, l'action se déroulant du lundi 16 avril 10h40 au mardi 17 avril 14h40, autant dire que le lecteur ne s'ennuie pas. Alors c'est un roman à double ressort et surtout c'est un roman qui donne une double vision d'Israël, racontée à la fois de l'intérieur par le personnage de Oriana, née sur place, élevée dans un kibboutz, militaire, très consciencieuse, et à l'extérieur avec Abadi, qui lui ne coche pas les mêmes cases. Est-ce que c'était en effet l'un des vœux de ce roman, Dov Alfon, sortir des images stéréotypées d'Israël?
Le roman essaie de jouer avec les codes, bien sûr, du roman d'espionnage, du roman policier, mais il joue aussi avec les codes de la vision d'Israël vue de l'étranger. Alors, Oriana est absolument l'archétype du Sabra. Elle est née en Israël, elle croit au sionisme, elle est fille d'un des fondateurs du kibboutz, d'un général. Son père était un officier de renseignement décoré. Elle se sent très à l'aise en Israël et elle est très surprise de découvrir soudain, quand elle accède au pouvoir, que les choses ne sont pas si simples que cela. Abadi, par contre, est déjà désabusé, dubitatif. C'est un outsider, de toute façon, dès le début. Mais lui, il en a carrément marre. Et il se demande un peu s'il devrait continuer sur cette route. Et sur cette route, ça veut dire d'abord son unité, son grade, mais aussi d'un certain, on peut presque dire, du projet sioniste. Il se pose des questions. Et donc, les dialogues entre ces deux-là, qui sont aigre-doux au début, et il faut bien quand même qu'ils coopèrent, représentent un peu des discussions internes en Israël. Mais je les ai décrits parce que c'est la vérité de tous les jours, et donc c'était assez facile. Israël est souvent décrit d'une manière très noir-blanc. C'est naturel, vu qu'il y a un conflit énorme qui intéresse le monde, mais j'ai trouvé que les contrastes et les contradictions de ce pays étaient souvent mal représentés, et donc j'ai voulu un peu, non pas corriger, mais amener un autre coup de projecteur. C'est, disons, mon côté journalistique. Et je pense que si, par exemple, ce degré de populisme politique couplé de corruption personnelle que l'on vit dans le monde politique israélien, je pense qu'il fait partie du problème. Je pense que ce n'est pas par hasard que tous les traités de paix et tout le processus de paix est bloqué par un premier ministre soupçonné de 4 chefs d'accusation, pas soupçonné, qui a déjà 4 chefs d'accusation, qui est déjà en fait en garde à vue du point de vue du système légal israélien. Ce n'est pas par hasard. Cela fait partie du cynisme politique qui entoure non seulement Israël, mais aussi, on peut le dire, le degré politique palestinien. Donc, quand on dit aux Européens « il faudrait faire quelque chose », ils ont tendance à répondre par des formules qui ne sont plus adaptées à la situation sur place. Et je trouve, par ce roman qui a un ton très léger, presque désinvolte, je l'ai fait exprès pour ne pas rebuter, pour ne pas donner lieu à un blocage. Mais en même temps, bien que le ton soit léger et que l'on rit beaucoup, je pense, ou du moins c'est ce que les critiques ont dit, mais je pense que je traite aussi de choses très graves.
Aujourd'hui, Dov Alphon, vous êtes donc journaliste et en même temps, vous dites des choses un peu terribles sur les médias en Israël. Enfin, vous expliquez qu'il y a quand même une forme de censure importante. Par exemple, cet extrait, quasiment toutes les stations de radio étaient sous le contrôle direct de ce bureau, sous-entendu le bureau du Premier ministre. 2 chaînes de télévision étaient sous son étroite surveillance et une autre était la propriété du plus grand donateur du Premier ministre. Et à la fin aussi, on croit comprendre que cette affaire d'enlèvement est totalement étouffée par le gouvernement et que les médias israéliens n'ont pas le droit d'en parler.
Alors, la main sur le cœur, peut-on dire que la presse française est plus libre et indépendante que la presse israélienne? Je pense que c'est une situation mondiale. Je pense que nous sommes dans un vrai danger démocratique où les hommes politiques au pouvoir voient toute critique journalistique comme un affront personnel ou un danger à leur pouvoir. Et on voit de plus en plus de l'influence, des menaces et aussi un flirt avec les propriétaires de presse et le pouvoir politique pour des raisons financières. Et donc je pense que la situation en Israël n'est qu'un microcosme de ce qui se passe dans le monde entier. Et j'en suis très inquiet.
Dans le roman, il est mention d'un premier ministre, évidemment, jamais nommé. Est-ce que Benjamin Netanyahou a lu le livre?
Alors, je sais que son cabinet en a demandé un exemplaire. Vous savez que Netanyahou n'aime pas du tout payer de sa poche quoi que ce soit un café ou un livre. On peut donc soupçonner qu'il l'a lu, mais c'était très tard et le roman était déjà extrêmement populaire en Israël. C'est déjà à la tête des best-sellers. Je pense que le cabinet a décidé qu'il valait mieux essayer de l'ignorer plutôt que de le traiter différemment, ce qui est en leur pouvoir. Ils l'ont montré plusieurs fois.
Mais vous voulez dire de faire acte de censure?
Ils ne peuvent pas le censurer, bien sûr, mais ils pourraient très bien me décrire comme traître à la patrie et me faire énormément de dommages. Ils n'hésitent jamais. Citons l'auteur Dorit Rabinian qui a décrit une histoire d'amour entre un Palestinien et une Juive qui s'est trouvée mise à l'index. Certains auteurs ont vu des prix littéraires publics refusé. Moi-même, vu que je vis à l'étranger, je n'ai plus droit à mes droits d'auteur en bibliothèque publique en Israël, parce que le 1er janvier, le gouvernement a décidé que si je ne vivais pas en Israël, je n'y avais plus droit, etc., etc. Donc il y a un véritable effort de censure et d'intimidation, je dirais plutôt, de journalistes, d'auteurs, d'artistes, de cinéastes. C'est un pays en lutte, mais la lutte continue.
Et donc, vous allez continuer d'écrire des romans, Dov Alphon?
J'espère bien que oui.
En attendant, merci beaucoup.
Merci à vous.
Le titre de ce premier roman, qui aura donc sans doute une suite, Unité 8-200, qui a été traduit de l'anglais par Françoise Bouillot et qui a paru aux éditions françaises Liana Levy. Merci encore.
Merci.
Littérature sans frontières.